Je vais vous montrer maintenant deux extraits pour vraiment creuser cette question de la part du réel, parce que la question du film d'animation, finalement, et du réalisme, c'est une question qui a été un peu dépassée maintenant. On a vu plein de films, vous avez vu plein de films avec des scènes réalistes, des films d'animation réalistes qui sont sortis ces 20 dernières années. Le film d'animation est devenu aussi un cinéma qui a attiré les adultes. Et je vais vous montrer la base de ce cinéma, finalement, paradoxalement, c'est le néoréalisme italien. Alors d'habitude, je sais, je crois que je vous ai déjà montré un extrait pour ceux qui étaient déjà là les autres années d'Allemagne année zéro. Donc quand on veut parler de l'enfance et de la guerre, on montre Allemagne année zéro. Mais comme voilà, j'en ai marre de montrer des histoires d'enfants qui suicident. Donc je vais vous montrer une scène plus marrante sur les enfants et la guerre. Comme ça, vous serez moins déprimés et vous suivrez la suite de la conférence avec plus de joie. Donc c'est un extrait du film de De Sica qui s'appelle Shusha. Et Shusha, c'est la façon maldite de dire shoeshine, puisque c'est des petits cireurs de chaussures qui arrivent mal à prononcer l'anglais. Donc au lieu de shoeshine, ils disent shusha. Donc c'est le titre du film. Et je vous montre l'histoire de... Voilà, je vous montre les deux petits personnages du film. Alors, vous voyez que, bon, d'abord, évidemment, il y a cette phrase qui m'a fait penser à Parvana, les femmes ne sont pas autorisées. Donc là, le petit garçon, alors évidemment, ce n'est pas une loi religieuse qui interdit la présence des petites filles, mais ces petits garçons, pour vivre, font du marché noir. C'est pour ça que le soldat lui dit, non, tu ne vas pas le revendre, hein, c'est pour toi. Donc ils font du marché noir, ils cirent les chaussures. Et ça va leur porter malheur puisque les deux personnages vont être très vite dans le récit du film, c'est une scène qui se situe au début, ici, ils vont très vite être emprisonnés, vont être mis dans une prison pour enfants, et l'essentiel du film sera dans cette prison. Donc c'est intéressant parce que finalement le père en prison, alors certes qu'on ne voit pas, puisqu'on reste du point de vue de Parvana, finalement ici, si c'était Parvana qui était en prison, on serait sans doute allé en prison avec elle. Donc le point de vue ici, il est très net, c'est celui des enfants. De Sica avait déjà fait d'ailleurs le voleur de bicyclette, hein, donc il avait travaillé. Même si c'est plus le point de vue du père, il y a aussi le point de vue de l'enfant sur le père dans au moins deux scènes très importantes. Donc ici, c'est le point de vue des enfants. Et vous voyez qu'on ne monte jamais la caméra vers les adultes, vers les visages, c'est-à-dire les hommes dont on cire les chaussures, eh ben, on ne voit pas leur visage, on voit leurs jambes. L'homme qui donne la tablette de chocolat, le soldat, on ne voit pas son visage non plus. Et donc, on reste à cette hauteur d'enfant pendant tout le film. Et c'est vraiment sur les conséquences de la guerre, puisque le film a été tourné juste après la Seconde Guerre mondiale, sur les conséquences de la guerre sur les enfants. Donc, le néoréalisme italien s'est en particulier intéressé aux femmes et aux enfants. C'est vraiment un cinéma très fort de ce point de vue et qui a créé des personnages féminins, comme dans Stromboli par exemple, ou d'enfants, comme dans Le voleur de bicyclette, comme dans La Manet Zéro, comme dans Chucha, des personnages d'enfants qui sont très forts et qui portent complètement le récit. On n'a presque pas besoin des adultes, et d'ailleurs dans Chucha, il y a très très peu d'adultes. Finalement, il va y avoir les matons de la prison, mais on voit bien que les parents sont des personnages tout de suite évacués. Et les relations importantes, c'est les relations avec les grands frères ou les petits frères ou les petites sœurs, la petite voisine, etc. Donc voilà, élément intéressant ici, c'est comment on survit. Là aussi, finalement, c'est des breadwinners, les personnages du film. Et donc, il y a peut-être un lien à tisser comme ça entre ce néoréalisme italien, une recherche de bah, qu'est-ce que c'est un enfant plongé dans l'horreur de la guerre, et Parvana. Alors, pour aller plus loin, je voulais aussi vous montrer un extrait du Tombeau des Lucioles, où là, vous avez à la fois la Seconde Guerre mondiale aussi, et deux enfants, un frère et sa sœur, plongés dans les horreurs de la guerre du côté japonais. Voyez qu'ici, il y a quelque chose qui est très beau visuellement, qui n'est pas si éloigné de Parvana, c'est l'absence de deuxième plan. C'est-à-dire qu'on a des enfants en souffrance, leur mère est en train de mourir, hein, elle a été brûlée vive dans les bombardements et elle est au bord de la mort et le plan d'après, c'est elle qui est morte et mise dans un charnier. Et on a ces deux enfants qui sont devant un paysage, devant une absence de paysage plutôt, devant ce ciel éteint, là encore presque, je ne sais pas si c'est pastel, je ne suis pas très bon en dessin, mais vous voyez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire une des couleurs qui sont éteintes. Donc on a ce travail sur aucun deuxième plan, on a le fond et on a les enfants. Ce qui donne à la douleur des enfants vraiment le premier plan. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dévorant ici, c'est qu'on est avec eux et que le monde semble complètement éloigné, loin, en tout cas très 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 loin d'eux, inatteignable. Donc les deux enfants vont se réfugier peu de temps après dans le récit, dans une sorte de crique un peu avec un lac merveilleux où ils vont créer une sorte de fiction, donc avec notamment les Lucioles qui donnent le titre du film. Donc c'est intéressant parce que Parvana, finalement, avec sa fable de Soliman, elle aussi crée une sorte de fiction qui va lui permettre de vivre le réel. Et là, les deux enfants vont créer cette fiction qui vont permettre de vivre le réel. D'ailleurs, le film est sorti au Japon en même temps que Mon voisin Totoro, hein, puisque Takahata et Miyazaki étaient très, très, très amis, avaient fondé ensemble le studio Ghibli. Et Mon voisin Totoro raconte peu ou prou la même histoire. Hein. C'est comment deux petites filles, pendant que leur mère est malade, vont s'inventer Totoro, vont vivre des aventures merveilleuses avec Totoro. Sauf que chez Miyazaki, on entre dans le merveilleux et on croit à l'existence du merveilleux. Et la mère ne meurt pas, d'ailleurs. Alors que chez Takahata, c'est l'horreur de la guerre. Donc le merveilleux, c'est des lucioles qui sont condamnées à ne vivre qu'une journée et qui ne vont pas sauver les personnages. Donc ici, on a des éléments graphiques qui sont très intéressants par rapport à Parvana sur les deux personnages. Vous voyez le côté... la fumée au fond, les ruines, la façon dont c'est filmé et l'ombre dévorante de la petite fille sur le sol. Il y a quelque chose aussi très graphique presque avec les lignes autour desquelles le petit garçon va sauter ici. Et c'est aussi très intéressant, vous voyez que la musique, elle n'est pas au début de la scène, elle part vraiment avec l'élan du personnage, comme si c'était le personnage qui la lançait et qui lance cet espoir désespéré, on pourrait dire, qui est celui d'égayer cette petite fille, sa petite sœur, au moment où sa mère est en train de mourir. Donc le réel arrive de façon extrêmement choquante et brutale ici, vous voyez, puisqu'on est dans un plan presque éteint du point de vue des couleurs et qu'on va passer à, au contraire, le cadavre en presque gros plan, le cadavre avec les bandages et le sang ici qui va bientôt devenir plus qu'une boîte, c'est le souvenir de la mère. Donc il y a ce côté carré rectangulaire qu'on avait avec les formes, les jeux pour enfants et qui devient cruellement la boîte qui va porter jusqu'à la fin du film. Alors retournons à Parvana. Alors donc cette part du réel dans Parvana, alors j'ai mis plusieurs images ici qui me semblent intéressantes. L'arrivée à la prison à la fin, le taliban qui vient avec ce qu'on croit d'abord que c'est sa fille et puis finalement c'est son épouse, et l'image que j'ai commentée tout à l'heure sur l'ombre des talibans sur les deux personnages du film. Donc Parvana, parlons de Parvana, héroïne du film, puisque c'est quand même elle le cœur et que l'adaptation a recentré le film autour d'elle. Elle a des qualités objectives, hein, une certaine bonté, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, elle est déterminée, donc elle agit. Elle agit, elle a un objectif très fort, libérer son père, un objectif qui est immédiatement compréhensible, d'autant que le fait d'avoir commencé par une scène au marché entre le père et la fille, comme dans le roman d'ailleurs, permet de créer cette relation très forte immédiatement. On sait que la relation la plus importante du film, c'est cet amour qui la lie à son père et qu'elle va tout faire pour retrouver. Au cours du film, elle évolue, elle se transforme et elle devient elle-même celle qui raconte l'histoire. Il y a un court moment dans le film, vous vous souvenez peut-être, où c'est la mère qui prend en charge l'histoire et non plus elle. Et donc c'est intéressant parce que bon, au début c'est le père qui lui demande de raconter, elle n'y arrive pas. Puis elle commence à raconter elle-même, puis quand elle ne peut plus, c'est trop dur, c'est sa mère qui raconte. À un autre moment, dont on regarde un extrait tout à l'heure, elle raconte en duo avec un autre personnage. Donc ce récit, finalement, prend plusieurs narrateurs, narratrices et va changer. Mais à la fin du film, une chose est sûre, c'est elle qui domine ce récit. C'est elle, la narratrice, c'est elle qui a sa propre histoire dans sa main. Cette héroïne, donc, à la fin aussi, élément intéressant, peut-être que vous avez noté, qui n'est pas dans le roman d'ailleurs, à la fin, elle dit à Razak, elle lui dit « Je m'appelle Parvana ». Elle dit « Voilà, je suis une petite fille ». Elle dit sa vérité. Donc c'est aussi intéressant, c'est parce qu'elle ne reste pas en garçon pour agir. Elle montre son vrai visage. Et donc cette affirmation de soi est intéressante. Alors on peut la comparer d'ailleurs à Persepolis, pour ceux qui connaissent bien le film, parce qu'à la fin, au début du film, le personnage de Marjan arrive à l'aéroport. On lui demande d'où elle vient, elle ne dit pas. Puis à Vienne, des gens lui demandent d'où elle vient, elle ment, elle dit qu'elle est française. Et à la fin du film, elle dit « je viens d'Iran ». Voilà, donc elle accepte son histoire, même si elle est douloureuse, elle dit qui elle est, et on a le même trajet vers cette acceptation d'une certaine façon. Alors là, évidemment, s'il n'y avait pas eu toute cette histoire, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le problème à ne pas s'accepter, mais en tout cas, à la fin, elle ne donne pas son nom de garçon, elle donne son nom de fille, elle dit « je suis Parvana ». Le visage de Parvana est sans doute inspiré par celui de Sharbat Goula, qu'appelait l'Afghane aux yeux verts, qui est une des photographies les plus célèbres de la fin du XXe siècle, qui a fait la couverture du National Geographic, qui a été photographiée en 84. Le National Geographic, en l'occurrence, date de 85, par le photographe Steve McCurry. Et les voix du film, et en particulier la voix de Parvana, ont été enregistrées en studio au Canada par que des comédiens exilés. Il est intéressant de noter que les voix françaises également ont été enregistrées qu'avec des comédiens exilés. Et la voix de Parvana, si je ne me trompe pas, c'est celle de Gofichte Farhanadi. Donc il y a une vraie volonté d'aller chercher du réel, d'aller chercher du côté de gens qui ont connu cet exil pour raconter l'histoire de Parvana. Donc on va regarder deux courts extraits pour voir comment est traitée l'héroïne dans la fiction.
Get up, Parvana.
Stop playing around.
Alors, ce qui me semble ici intéressant, c'est vraiment le travail sur le point de vue. C'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une scène de violence qu'elle est moins violente. Voilà, on ne voit pas les coups, en l'occurrence ici. On voit Parvana qui s'échappe de façon assez irréaliste, puisque si sa mère se fait frapper à côté, elle devrait regarder. Donc il y a quelque chose ici d'une sorte de sortie un peu poétique où elle va chercher les pièces du puzzle de la photo de son père. Et on a des coups qui sont portés pendant qu'on regarde le ciel. On a juste les signes des coups. Donc on a le bâton qui sert normalement pour marcher. Et on a voilà, le visage de l'homme. Et vous voyez que ce qui est aussi assez intéressant dans la façon dont c'est fait. Voilà, on va le revoir si c'est pas. Donc on a les mains, on a les objets, l'arme, on a l'homme qui frappe, on a les hommes qui ne font rien. De nouveau le ciel indifférent. Parvana qui s'intéresse à autre chose comme une fuite. Le bâton qui tombe.
Going to the prison.
La mère qui est penchée et son assaillant, le violent taliban, qui est très essoufflé. Donc on comprend à tous ces signes, on n'a que les signes de la violence extérieure, presque bressonien on pourrait dire, pour ceux qui connaissent, et on n'a que les signes de la violence, on n'a pas le cœur de la violence, mais on a bien senti que toute cette scène était faite sur le déchirement, sur cette violence qui va déchirer le réel, le corps de la mère, la photo du père, et il y a quelque chose ici de l'ordre de la destruction qui est très bien montré. D'autre part, vous voyez que les plans sont travaillés autour des barreaux. Évidemment, ça rappelle le début du film avec ces femmes qui sont même à l'extérieur, même quand elle est à l'extérieur, elle est filmée derrière des barreaux. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très fort visuellement dans le film. Alors, et puis juste pour terminer sur le début de la scène, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous avez noté que. Alors bon, la mère qui tombe aussi, c'est intéressant. Et le seul personnage de la ville qui est un peu sympa, c'est celui qui vend les fruits et les légumes. Et par deux fois, il y a des comme ça, il dit quelque chose à Parvana, il dit quelque chose à la mère. Et il n'est pas absolument dans un rejet. Il faut vite que tu rentres ou je vais te frapper, etc. Et c'est intéressant parce que c'est presque visuel. C'est-à-dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme c'est les seuls signes de couleur vive à part les femmes, c'est comme s'il avait un lien visuel, presque poétique, dans l'image avec elle. Et c'est ce qu'on voit dans son comportement. Alors, maintenant, je vais vous montrer, voilà, l'extrait de la transformation, de la métamorphose du personnage. Alors ici, ce qui me semble, alors pour information, la scène de la première fois quand elle entre dans la ville et quand elle parle aux commerçants, c'est la scène qui est analysée sur le site Transmettre le cinéma et sur le dossier pédagogique. Donc je ne vais pas le faire et vous irez, voilà, vous irez référer directement. Mais d'abord, ce qui m'intéresse ici, c'est une trouvaille vraiment de scénario ou peut-être de la réalisatrice. C'est-à-dire que puisque c'est Parvana qui, ici, a l'idée de se couper les cheveux, contrairement dans le roman, comment elle a cette idée? Elle a cette idée avec avec la photo. C'est la photo déchirée qui lui donne l'idée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très beau et qui est très sensible. C'est voilà, le déchirement de la photo qu'elle va réparer par un autre, par une sorte voilà, de quelque chose qu'elle va elle-même couper. Et finalement, en devenant capable de elle-même couper, elle va revenir maîtresse de son destin. Autre élément qui me semble intéressant, c'est voilà, les ciseaux, la sœur qui coud. Donc les ciseaux qui sont utilisés par la couture, qui vont être utilisés presque ici comme une arme de guerre, hein, pour transformer le personnage. Elle se coupe les cheveux, la sœur arrive, et vous voyez que ça a lieu devant le miroir. Or, le miroir prend un sens intéressant, puisque le miroir apparaît quand même à un moment symbolique du film, qui est la fable de Solomon. C'est le premier élément, c'est le miroir. Donc c'est intéressant, parce qu'encore une fois, les éléments du récit de la fable sont des éléments dans le réel, qui ont une importance dans le réel. Et là, c'est la première arme qu'elle a, finalement, la première chose qu'elle a, c'est de changer son apparence. Donc ça nous le dit très bien, en faisant ce lien entre le récit dans le récit et le réel de Parvana. Alors juste pour vous dire sur la deuxième partie quand même, alors voilà, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment son invisibilité, c'est-à-dire que pour la première fois du film, Parvana se fond dans la masse. Elle est regardée, mais on ne lui adresse pas la parole. On ne la voit même pas dans la boutique. Et cette invisibilité qui lui était interdite, finalement, de juste marcher librement, ici, lui est donnée. Donc il y a vraiment un travail sur le point de vue pour nous faire ressentir son corps dans l'espace, pour être à son niveau, pour avoir le jeu de regard avec ce qui la gêne, ce qui la travaille, etc., qui est vraiment intéressant dans cette scène. Donc c'est aussi une scène intéressante pour travailler le point de vue. Alors il y a une héroïne évidemment qui est Parvana, qui est l'héroïne titre du film, mais on voit dans le film comment cette héroïne est déclinée avec les autres personnages, puisque quasiment tous les personnages masculins sont exclus, en tout cas le personnage masculin fort, important, le père est exclu, que le frère est mort, il reste les femmes. Et donc je vous ai mis cette image des trois femmes avec le voile, parce que finalement, est-ce que le filet pour prendre ne ressemble pas un peu à un voile où il n'y a pas quelque chose-là? Comment un élément du réel encore, le voile, qui est un élément ici désagréable pour le personnage de Parvana, va être réutilisé positivement dans le récit, réinventé en quelque sorte. L'héroïne qui est intéressante, c'est évidemment Chazia, qui va être le vrai double de Parvana, qui va lui donner les codes de ce monde, lui dire « il faut que tu te trouves un nom, il faut que tu joues ton rôle », elle va l'aider à mieux jouer son rôle et elle va l'écouter. On va revenir sur ce personnage vraiment très intéressant et qui est vraiment central aussi dans le roman. Et puis il y a l'héroïne la mère, qui elle a son évolution en creux aussi, puisque son évolution c'est d'aller voir son mari et finalement de ne plus sortir puisqu'elle s'est fait violemment battre. Et à la fin du film, elle choisit de s'armer au risque de sa vie. Voilà, elle a le feu et elle prend le couteau dans ses mains. Donc c'est un personnage qui elle aussi, comme Parvana, vit une évolution vers l'action, vers quelque chose où elle ne va pas se laisser faire. Donc c'est un personnage aussi vraiment fondateur dans le récit, peut-être le deuxième personnage en termes d'action finalement. Le point de vue, la façon dont il est travaillé dans le film, vous voyez à travers ces images, alors je vous en ai un petit peu parlé avec le Taliban par exemple, quand les moments où il arrive, on le voit en contre-plongée, donc du point de vue de Parvana qui plus est assise. Il y a tous ces plans sur le visage de Parvana où elle regarde le monde. Là, on vient de le voir dans cette scène quand elle regarde le boucher par exemple. On a un champ contre champ, on a un plan subjectif de Parvana. On a aussi donc ce moment que je vous ai montré où elle sort du réel et on va la suivre. Donc on est décalé par rapport au point de vue de la violence pour ne pas la voir. Il y a ce qui lui est interdit par exemple comme la prison, comme de voir son père. Et puisque ça lui est interdit, ça nous est interdit à nous aussi et on reste de l'autre côté de la porte. Et enfin, il y a cette scène sur laquelle je vais revenir dans un instant, où on voit bien ici déjà qu'on a l'homme, le taliban et Razak est coupé et on est vraiment avec, dans la lecture de Parvana et juste avec le geste de l'homme, comme un écho entre les mains qui lisent et les mains qui coupent la pomme ici.